When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Max.
Ça va Arthur ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, merveilleux, on est à ton hôtel là, à Melbourne.
Sous un petit crachin breton.
Voilà, ça fait plaisir, ça te rappelle la maison, non ?
Ah bah, je suis pas dépaysé comme ça. C'est...
Bon, merveilleux. Ouais. On va aller prendre un petit café, tu nous emmènes où ?
Je crois au Starbucks à l'angle là-bas, si c'est bien ouvert et pas trop bondé de monde.
Valeur sûre ça, Starbucks ?
Valeur sûre. Valeur sûre, le matcha est toujours valeur sûre là-bas. J'ai appris à connaître grâce à ma copine,
ma
future femme, donc ouais, je suis assez accro au matcha coco là-bas.
Ah ouais, ouais incroyable, c'est... je connais pas.
Ah bah tu vas peut-être goûter alors.
J'ai goûté une fois le truc vert là, matcha latte, non ?
C'est ça.
Et toi c'est coco ?
Avec du lait de coco.
Ok.
Le lait classique, ça attaque le ventre, donc j'évite un peu.
Ouais, je comprends.
J'évite un peu.
Bon du coup, on n'a pas le ciel bleu, mais c'est pas grave. C'est ton combientième là de Open d'Australie ?
Troisième.
Déjà ?
Déjà, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, déjà. Ouais. Troisième tableau final.
Énorme.
J'avais fait les qualifs en 2020, pendant le Covid. Mes premières qualifs en Grand Chelem à Doha. Quand ils avaient été relocalisés à Doha, parce que pas possible d'aller jusqu'en Australie. J'avais eu la bonne idée de perdre au dernier tour des qualifs pour ne pas y aller.
Contre qui ?
Contre Michael Moe.
Mais
j'avais bien fait de perdre, on était content de perdre presque avec mon
Sérieux,
coach avec Seb. Ouais, parce qu'après il fallait aller en Australie, faire 2 semaines de quarantaine forcée, enfermé dans la chambre et tout ça. Et avec le recul, c'est pas une bonne décision d'avoir perdu, mais évidemment qu'on n'avait pas souhaité perdre, mais on avait perdu au dernier tour et au final ça nous avait plutôt bien réussi parce que j'étais rentré moi en Europe assez tranquillement et j'avais pu gagner des challengers.
T'avais joué où ?
Et j'avais gagné à Istanbul.
Ouais.
Un challenger 125 et ça m'a permis de continuer à grimper et de jouer surtout et pas d'avoir un stop dès le début de l'année de 2 semaines enfermé dans une chambre
faire des squats tout seul
pour faire un tournoi voilà, exactement. Donc
comment tu te sens ici à Melbourne, c'est quoi la vibe pour toi, tu la qualifierais comment?
J'adore le tournoi, hein. Je pense que c'est hyper sympa pour nous européens en tout cas pendant l'hiver de pouvoir partir à l'autre bout du monde et d'avoir du soleil, bon pas aujourd'hui, pas sur cette vidéo, mais d'avoir du soleil, de la bonne température, c'est hyper agréable.
Ouais.
Et je trouve que c'est une tournée qui est vraiment géniale, c'est là au fond.
Alors attends, j'ai peu le monde là, qu'on se rende bien compte d'où on est. On est quoi ? On est plein centre-ville, non ? Je connais un peu.
Ouais, on est sur Collins Street.
Ouais.
On est plein centre. Là, surtout qu'avec la pluie, à mon avis, les gens sont partis faire un peu shopping et tout ce qui va avec. Donc on est presque à New York, quoi.
J'imagine que t'évites peut-être un peu de te disperser comme ça quand t'es en plein tournoi pour pas prendre trop d'influx, non ? C'est quoi ton...
Ouais, j'aime pas trop. Surtout en Grand Chelem, j'essaye toujours de faire assez attention à passer le moins de temps possible sur site.
T'es pas du genre à traîner dans les canals, dans le Player Lounge ?
Non, je suis pas de ce style. Quoi qu'il arrive, je suis pas de ce style et encore plus en Grand Chelem parce que je pense que c'est important de garder de l'influx et du jus et puis surtout surtout moi qui en ai besoin, qui ai pas mal besoin justement de cette énergie pour jouer et puis encore plus dernièrement avec mon corps, essayer de le préserver au maximum et de me reposer au maximum pour me sentir bien et m'éloigner des blessures.
Ouais. Bon évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée mais on y va quand même.
On y va quand même.
Hein ? Si les gens de Starbucks nous regardent, n'hésitez pas pour l'année prochaine. On est fan de matcha.
Allez,
surtout Arthur.
On y va.
Et meilleur résultat jusqu'à maintenant en Australie ? C'était quoi ?
Deuxième tour.
T'as joué sur un concours déjà ?
J'ai battu Popirine en 5-7 il y a 2 ans.
Ouais.
Première Australian Open.
Chez lui en plus, du coup.
Chez lui. Sur le cours. Le petit ovale, là, le cours des Australiens, la cours 3. Sur le cours 3 où c'était bien chaud et j'avais dû me retirer au deuxième tour parce que je m'étais blessé au poignet.
Ouais.
Et j'étais vraiment vraiment embêté, donc je pouvais pas du tout défendre mes champs. Je devais jouer Dan Evans sur le comment il s'appelle celui qui a un numéro à 1573
1573.
Et j'ai dû me retirer. Et la dernière, j'ai perdu au premier tour, malheureusement. Donc voilà, écoute, mais non, j'aime beaucoup ce tournoi. Ouais. On m'a fait quart de finale aussi l'année dernière en double avec mon copain Ben Bonzi.
Très bon ça.
Ouais, des bons souvenirs. On s'est bien marré.
On va passer commande, on reprend juste après.
Allez.
Je savais pas que tu t'appelais Peter chez Starbucks.
Ouais, souvent les cafés, les trucs comme ça, je mets Peter parce que Arthur, ouais, ils ont du mal à comprendre quelque chose.
Il la prononce comment ici?
Ouais, tu sais jamais trop justement parce que
Arthur.
Ouais, c'est pas toujours des Australiens, on va dire.
Pure souche
qui sont au café, donc c'est jamais très évident. Donc le Peter, il passe bien, et au pire, on dit que je suis allemand.
Et le Rinderknecht, il le prononce ou pas? Il l'ont ou pas?
Rinderknecht, je leur en parle même pas parce que ce serait trop compliqué.
Bon, tu disais au départ, du coup, tu viens de Bretagne, c'est ça?
Non,
pas du tout.
Alors,
magnifique.
Pas du tout.
Elle est belle, cette info.
Je suis né dans le sud, à Gassin, un petit village à côté de Saint-Tropez, parce que ma grand-mère maternelle habitait dans ce coin. Et mes parents étaient en vacances dans le sud en juillet, et ma maman a accouché là-bas.
D'accord.
J'ai passé pas mal de vacances dans le sud, mais je suis pas du tout rien à voir. Enfin, j'ai pas du tout jamais vécu dans le sud. Je suis parisien, banlieusard.
Okay.
Val-de-Marne,
ouais.
Vincennes, puis Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines.
D'accord.
Et je suis parti aux États-Unis après le bac.
Ouais.
4 ans au Texas. Et en revenant, je me suis lancé sur le circuit un an à la Fédé française à Roland, au CNE.
Thank you.
Puis parti à Rennes, en Bretagne. Maintenant, ça fait 4 ans et demi que j'y suis et on adore.
C'est là où j'ai bugué, ouais.
Voilà, et où je suis parti m'entraîner avec mon entraîneur Sébastien Villette.
Ouais.
Et on adore. Ma copine est d'origine bretonne, de la famille là-bas, donc je me sens pas trop, on va dire, pas trop loin de tout ce cercle familial et on adore. Donc on a maintenant acheté notre petit appartement là-bas et on s'y plaît bien.
Magnifique. Du coup, est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé jusqu'au moment où tu as décidé de partir aux États-Unis? On va faire un petit volet là-dessus, évidemment.
Alors, ma progression non classée, 31.
Ouais.
31, 15-4. 15-4, je peux pas te donner les âges là, je suis là.
Ouais, grave. T'as commencé à quel âge juste?
Tennis, j'ai commencé à 5 ans, 5-6 ans.
Ouais.
Et mes deux parents ont joué au tennis. Ma mère a été 200e WTA.
Ouais. On est sur une table compliquée.
200e WTA.
Mais oui, t'es issu d'une famille hyper sportive.
Ouais. Pas mal. Mon père a été à moins 15 à l'ancien classement. Il a jamais joué sur circuit, mais voilà, il a pas mal navigué.
Ouais, on va prendre celle-là.
Et
ton papa était combien, t'as dit?
Moins 15 à l'ancien classement, quand il n'y avait pas de moins 30. Donc il était pas loin. Ça équivaut à une petite promotion, je pense, ou quelque chose comme ça. Ma mère, 200.
Ouais.
Elle a arrêté jeune pour cause de blessure.
D'accord.
Et puis ouais, je suis un peu tombé dedans avec le foot et les deux en même temps, mais bon, c'est le tennis qui a pris le dessus. Et j'ai commencé à 5-6 ans, voilà, avec mes parents dans mon petit club à Saint-Mandé.
Yes.
Dans Val-de-Marne. Et,
non classé 31.
Non classé 31, 31, 15-4, 15-4, 15-2, 15-2, 5-6, 5-6, 3-6, 3-6, 1-6, 1-6, moins 2. Moins 2, moins 4.
T'es à quel âge quand t'es à Vegas?
Et là, c'est à ce moment-là où... Alors, j'étais à 1-6 en seconde. Je suis rentré en seconde, j'étais à 1-6. Première, je devais être à moins 2. Terminale à moins 4. Et j'ai fini, j'ai eu le bac et je suis monté à moins 15 en septembre.
Bac quoi?
Bac S.
Propre. Mention?
Non.
Ah!
Pas mention.
Mention dommage.
Mention à l'arrache. Mais j'étais dans un lycée, lycée classique, avec une classe classique. On était 3-4 joueurs de tennis dans la classe, qui bénéficiaient d'horaires aménagés. Enfin, qui faisaient bénéficier les autres élèves d'horaires aménagés, mais on était dans une classe absolument classique. Soit on faisait du 8h-13h, ou du 11h-18h,
ouais,
tous les jours. Donc au final, on était vraiment dans cette sociabilité générale avec tous les autres athlètes, qui étaient très sympas, qui... Moi, m'était et m'est toujours, je pense, importante. de rester voilà, dans le monde réel. Et à cette époque-là, j'avais aucune... Enfin si, j'avais des rêves, mais pas d'ambition précise d'être joueur de tennis pro. Donc c'était important pour moi de rester voilà, dans ce milieu, on va dire, naturel et classique, qui est d'un élève de terminale de lycée. Ouais. Et sa vie de tous les jours. Et je suis parti aux États-Unis après mon bac janvier 2014. Je suis parti au Texas et j'étais à moins 15 à ce moment-là.
Yes. Tu dis que tu avais des rêves, mais pas forcément l'ambition de devenir pro. C'est quoi ? C'est que tu penses que tu manquais un peu ou c'est que tu étais lucide ? Et en deux temps, t'étais à où par rapport au tout meilleur ?
Je pense que je me situais vers les 5, 6, 7e français. Ouais. J'ai fait quart de finale au championnat de France en 16 ans, quart de finale au championnat de France en 18 ans, donc je me débrouillais correctement. Mais j'étais pas dans les meilleurs et j'étais pas dans les petits papiers de la Fédé, on va dire. Et quand je passe mon bac, je suis derrière, je suis, c'est sûr, en tout cas, pas dans les 2-3 premiers français.
C'est qui les mecs devant ?
À l'époque, bah, il y a Enzo, Fuaco.
Ouais.
Mon copain qui était déjà très fort très vite, il y a eu Amou, ouais. Maxime Amou qui était fort aussi jeune, bon, je dois en oublier, cette époque-là les meilleurs, en tout cas à 18 ans je parle, à 16 ans il y en avait d'autres, il y avait plus Enzo Pi, des joueurs comme ça, mais à 18 ans c'était un peu ces joueurs-là, mais j'étais loin d'être, si, et Calvin Emery évidemment aussi qui était très fort.
Ouais, qu'on revoit là, qui était en qualif.
Voilà, qui revient.
Et du coup, tu manquais, tu penses un peu d'ambition ou tu étais juste lucide ?
Non, je pense qu'en fait, j'étais pas le plus précoce physiquement. Physiquement, je suis pas forcément, voilà, à 18 ans, j'avais mon corps de petit enfant. Quand il y en avait qui avaient déjà, voilà, les épaules, les bras, les trucs, ils étaient déjà développés. Moi, je l'étais pas forcément. J'ai pas forcément tout fait pour non plus. J'avais pas un entraînement physique du tout adapté. Enfin, j'étais très très loin de cette sphère du tennis pro, des joueurs qui jouent les ITF juniors. J'étais à des millénaires, tout ça. J'ai jamais joué les tournois juniors du circuit. Je faisais des CNGT, je faisais des tournois français. Donc bien loin de tout ça. Maintenant, j'avais ce petit rêve, mais sans vraiment y croire presque. Mais par contre, j'adorais le tennis. Ouais. Passionné de tennis, je m'éclatais sur le court. Je pense un bon matcheur, une bonne teigne quand je jouais. Je n'aimais pas perdre. Et je me suis dit que j'avais encore envie de jouer au tennis. Je n'avais pas envie d'abandonner tout ça. Et pour autant, me lancer sur le circuit à 18 ans, alors que j'étais moins 15, que ça coûte, on sait combien ça coûte de financer une saison.
Surtout entre 30 et 100 000 l'année.
Voilà, pour attaquer par les qualifs de futur où j'avais pas forcément le niveau pour tout dégommer direct, quoi. C'était les qualifs de futur, j'allais passer un tour, puis un tour, puis un tour, puis peut-être un peu plus. Et c'était. J'avais pas du tout l'ambition ni la capacité de me lancer sur le circuit à cette époque-là. Et je me suis dit, les États-Unis, c'est vraiment le meilleur fit pour moi. Et je remercie mes parents qui m'ont encouragé à y aller. Parce que moi, évidemment, j'avais toujours quand même un petit peu des craintes de partir à l'autre bout du monde comme ça à 18 ans. Mais ils m'ont encouragé, j'y suis allé. Et en fait, ça a été une énorme différence pour moi. Ça a changé beaucoup de choses. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi en bonne partie grâce aux États-Unis.
Ouais.
Parce que j'ai pu continuer à m'entraîner comme, on va dire, de plus en plus comme un pro, parce que je pense que je m'entraînais pas vraiment comme un pro jusqu'à mes 18 ans. Mais après, j'ai commencé à avoir plus de masse d'entraînement, plus d'heures de match, plus d'heures d'entraînement comme un athlète de haut niveau aux États-Unis. Et j'ai progressé là-bas, j'ai été bien entouré, j'ai eu des entraîneurs Steve Denton, qui est un ancien joueur de Coupe Davis pour les États-Unis, qui a été 11e mondial en simple, 2 ou 3 en double, donc un vrai joueur.
Avant de trop parler des US, comme tes parents étaient très bons, ta maman surtout, est-ce que c'était... mon père m'a vachement emmené sur les tournois, on parlait énormément, et il me disait, moi, à 13 ans, j'avais fait ci, à 14 ans, j'avais fait ça, et je m'étais fixé un peu de le dégommer sur les temps de passage. Est-ce qu'au fond de toi, tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien être meilleur que ma mère sur le classement, ou c'était pas forcément
non,
un truc que t'as...
Non, ça n'a jamais été une ambition. Maintenant, je me souviens qu'on en a rigolé le jour où je suis passé, parce qu'elle a été, je crois, 201e. Et le jour où je suis rentré dans les 200, bon, elle m'a dit, bon, ça y est, tu m'as dépassé. Elle a été 11e française, et voilà, pareil, j'ai
dépassé. Été numéro 1.
J'étais numéro 1 l'année dernière. Et j'ai dépassé ça, mais pas du tout, non, pas du tout d'objectif en soi. Je me suis jamais fixé d'objectif de classement ou de résultat.
Sérieux ?
Ouais. jamais. Ouais.
T'as en tout cas réussi à rester focus sur le process et,
ouais. Ouais.
et progresser dans ton jeu.
Et quoi. C'est souvent justement quand je m'échappe un peu de ça où ça part un peu en cacahuète ou alors je fais pas forcément ce qu'il faut sur le terrain ou peut-être même en dehors. Et ça, c'est surtout grâce à Sébastien qui m'a vraiment inculqué cette.
Sébastien Villette, ton ancien coach.
Sébastien Villette, exactement, qui m'a inculqué cette espèce de vision. Ça permet de vraiment se détacher du résultat parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué sur le circuit, le résultat, parce que tu perds toutes les semaines. Et puis quelqu'un qui a du mal à l'assumer, et on est tous des gros compétiteurs. Bah, en fait, très vite, tu peux partir dans un cercle vicieux, négatif, qui se termine pas en fait. Et si tu as l'ambition de vouloir plutôt que ce cercle soit vers le haut et qu'il progresse, il faut voir les choses de la bonne manière. Et je pense que c'était une des raisons, enfin, c'est sûrement une des raisons principales du fait que j'ai réussi à grimper les échelons sur le circuit. C'est que j'ai réussi à être concentré sur la tâche et le niveau de jeu et ce qu'il y a à faire pour progresser plutôt que de me dire je veux gagner ça, ah, si je gagne ça, je vais monter ça et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup drivé. Et c'est quelque chose que j'essaie de garder en moi. Maintenant, pour revenir à ta question de base que j'ai oubliée.
C'est pas grave, tu as répondu, c'était vis-à-vis de ta maman.
Vis-à-vis de ma maman, ouais, non, jamais eu de...
Ouais. Juste pour rebondir sur cette Villette, je vous ai rencontré l'année dernière ici. J'avais parlé un petit peu avec Seb, on s'est revu à Wim. Et moi, je me souviens de ce match au premier tour l'année dernière où... Il te rentre dedans comme jamais, et puis je le vois assez virulent, assez tendu. Assez... Quoi. Je sais pas s'il va écouter cette interview, mais ouais. J'étais sur le côté et je me disais, c'est ouf comme le mec, comme toi de l'extérieur, tu fais un peu poser, un peu maître ouais. du truc et tout. Alors, et lui, il te rentre dedans comme jamais.
Je pense que c'était justement pour ça, c'est que j'étais maître de rien du tout sur ce match l'année dernière.
Ouais.
La première semaine en Australie se passe bien, je suis à la Lunatic Cup. Je joue plutôt bien, je gagne, je barre un mec top 30, je perds contre Koric, accroché, je suis plutôt en forme. Et puis la deuxième semaine, en arrivant à Adélaïde, Seb était parti avec Manuel Guinard, celui avec qui on le partageait,
ouais.
mon grand copain et partenaire d'entraînement. Et en fait, j'ai les séances physiques à faire tous les jours, les séances d'entraînement. Et en fait, je me réveille les lendemains, je suis courbaturé de partout, comme si j'avais une grippe, quoi, mais sans être malade.
Ouais.
Juste courbaturé, fatigué, je comprenais pas, je me disais c'est bizarre.
Suite à ton match à Adélaïde ?
Non, juste en préparation d'Adélaïde.
Okay.
J'ai fait le tournoi d'Adélaïde, bon, ouais. Je perds au premier tour.
Tu récupères mal quoi.
Ouais, je suis pas bien. Je perds au premier tour en 3-7 accroché, bon, ça arrive sur un bon joueur. Hussler, qui était top 50 à ce moment-là, qui était en confiance, qui montait bien, qui jouait bien. Je fais pas un mauvais match, mais je perds, bon, c'est comme ça. Et j'arrive en Australie, j'arrive ici, et pareil, du mal à enchaîner les jours d'entraînement, de préparation, je me sentais pas bien. Un jour fatigué, un jour combatturé. Et en fait, je passe à côté sur ce premier tour. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu l'avais vu assez d'attaque. C'est que bah, en fait, j'étais pas capable de me booster ce jour-là. J'étais à moitié endormi. Okay. J'ai perdu en 3 petits sets. Et sans trop comprendre ce qui m'arrivait.
C'est qui déjà ?
Contre qui j'avais perdu ?
Ouais.
Contre le japonais. Je suis très mauvais sur les noms des joueurs.
Ouais, ça nous a pas marqué.
Les japonais, il n'y en a pas 2000, qui est 80, 90, avec Sabobola. Tu pourras l'écrire là sous le...
Ça va nous revenir.
Quand tu vas le retrouver, mais là, ouais. Il n'est pas en tête.
Nathan, si tu le trouves, Open Australia 2023. Là, merci beaucoup.
Toujours pas. Ouais, je perds en 3 petits sets. Et en fait, on a un beau petit run en double avec Ben dans la foulée. On fait quart de finale. Mais beaucoup moins demandant physiquement pour moi, évidemment. Et c'était plus en relâchement et pour un peu compenser
boîte en trottinette.
Ouais, voilà, une petite gamelle en plein milieu de la route. La déception de ce simple. Et en fait, plusieurs semaines plus tard, parce que ça allait pas mieux, je fais des tests sanguins. Je demande à faire des tests sanguins auprès de mon docteur parce que je pensais avoir quelques carences ou quelque chose qui...
Mono.
Et en fait, c'était mononucléose, donc ça a expliqué pas mal de choses. Et pour moi, et pour Seb, évidemment, qui ne comprenait pas, parce que je suis plutôt un joueur, normalement, qui est plutôt assez... qui a pas mal, peut-être calme de l'extérieur, mais qui a quand même pas mal de feu à l'intérieur. Et là, j'en avais pas beaucoup. Donc ça a expliqué pas mal de choses. Et dans la foulée, j'ai développé une pubalgie.
Ah ouais.
Qui, évidemment, ne voulait pas se guérir. Parce qu'avec cette mononucléose, affaiblie et tout ça. Donc ouais, un petit voilà le petit cercle qui n'allait pas vraiment dans qui ne tournait pas très rond et j'ai pu réussir à m'en sortir vers la fin de la période de terre battue
ouais.
Où j'ai repris une ou deux semaines avant Roland.
Ça doit être long à gérer.
C'était long. On a longtemps cru que je devais me faire opérer. Finalement, grâce à mon physio à Rennes, Olivier Choupeau, j'ai réussi à l'éviter. Maintenant, ça va bien. Donc ça a été une belle satisfaction déjà. Parce qu'une opération, on ne sait jamais trop comment ça va se finir ou comment ça va se passer. Et là, je m'en suis sorti, donc c'est cool. Mais ouais, début d'année difficile. Et donc, pour revenir à ta question de Seb, ouais, il était assez... J'étais ce jour-là parce que forcément il comprenait pas pourquoi j'étais endormi ou un peu à côté de mes pompes et je suppose qu'il avait essayé de me booster ou de me réveiller mais il y avait rien à faire ce jour-là j'étais vidé.
Bon donc tu passes le bac.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
S, tu pars aux US. Pourquoi cette université-là? Et peut-être qu'un jour, on prendra le temps de faire un épisode un peu plus complet, tout ça. Là, on est sur un grand chelem et t'as entraînement dans pas si longtemps.
Ouais.
Raconte-nous, fais-nous voyager un peu sur les 4 années. T'as fait 4 ans ?
4 ans.
T'as diplômé, donc
4 ans et 4 ans et demi, même, presque.
Ouais. Et, incroyable.
J'ai eu mon diplôme.
C'est beau. Quel diplômé de quoi, d'ailleurs ?
Diplômé en business, business général. J'étais en business management.
Ouais.
Orienté plus sur le business management jusqu'à ma troisième année, j'ai décidé de me réorienter sur le truc général parce que j'aime bien le management, ça m'intéresse, mais je me suis dit autant garder toutes les portes ouvertes
yes.
Et toutes les filières ouvertes, donc je me suis réorienté sur le général.
Si tu peux nous faire un petit résumé, je viens de découvrir un truc génial, c'est que j'étais à Boulogne-sur-Mer pour un documentaire sur la Pro B. Il y a Aziz Eskander qui était aux US et j'ai vraiment vu la différence entre les mecs sur le circuit depuis le départ et les mecs qui ont fait les US. Les mecs qui ont fait les US ont vécu en fait. Ils ont fait la teuf, ils ont vécu une vie de mecs de cet âge-là. Et du coup, ils arrivent sur le circuit, peut-être mentalement un peu plus frais aussi. Alors oui, tu as des années avant où les gars étaient déjà là. Et voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces 4 ans et demi ?
Ouais, on a l'avantage d'avoir commencé, on va dire, le circuit à 22-23 ans plutôt qu'à 17 ou 18.
Ouais.
C'est sûr qu'on attaque avec plus de fraîcheur et plus de, on va dire, de folie. Mais ouais, les 4 ans, non, c'était génial. On dit souvent, c'était mes 4 plus belles années de ma vie.
Tu confirmes ?
Honnêtement, ouais.
Ah ouais ?
Ouais, honnêtement.
Et pas de détour.
Quand on me le disait, je disais, ouais, bon, ne me la fais pas à moi et tout, ça va, truc, les États-Unis, là. Mais c'est la vérité, quoi. Aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière et avoir 18 ans, j'aimerais tellement pouvoir être là ce premier jour où je débarque et revivre ces 4 ans parce que j'ai vécu tellement de trucs incroyables avec voilà une équipe de 10 mecs qui ont le même âge que toi, qui sont dans le même délire que toi. Voilà, la vie à 100 à l'heure, hein. c'était pas facile ou drôle tous les jours non plus, hein, mais on faisait des grosses journées, mais s'entraîner comme des fous avec une équipe, avec des joueurs, avec 3 coachs qui sont voilà dédiés.
3 coachs.
Ouais, 3 coachs pour une équipe de 10.
C'est solide.
Qui sont à fond derrière toi, tout ce qu'ils veulent c'est te faire progresser, ils sont hyper motivés, tu as des préparateurs physiques, des kinés, un staff médical, enfin t'as voilà, un ensemble de choses qui sont tout est mis à disposition pour toi et surtout bah t'as des voilà dans des conditions de rêve, t'as des matchs par équipe toute l'année quoi. Et ouais. si tu connais les matchs par équipe en France de mai, de quand t'es plus jeune ou moi déjà j'adorais ça avec mon équipe, bah là en fait c'est ça mais x10 quoi où t'as des publics, t'as tous les mecs ensemble qui jouent ensemble, t'as les doubles, les simples, t'as des classements, des fins d'année, des playoffs, les trucs. Donc c'est génial.
Et pour autant, les mecs disent Rinder, ça faisait pas trop la teuf déjà. Qui j'en ai parlé ?
Ah là, faut que tu me donnes les sources parce que.
Et bon, la plupart me disent le gars était déjà très cadré, très structuré dans le projet.
Disons que je savais.
Mais je suis ravi que tu me racontes une bringoude quand même.
Ah non, on va pas rentrer trop dans les détails. C'est pas sur ce documentaire qui faut en parler, mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça m'aurait fait rire de savoir qui disait ça, mais non, c'est la vérité. Je, disons que j'avais quand même cette envie intérieure de me donner le maximum de chance et de voir où est-ce que le tennis pouvait m'amener dans ma vie.
Ouais.
Et donc, ça passait par faire les choses bien, m'entraîner comme il fallait, comme un futur pro ou comme un pro, et voir où ça m'emmène. Donc, évidemment que la soirée du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, si on avait match le dimanche, le
c'est
vendredi,
rigolo,
entraînement le jeudi, bah, j'y allais pas tout le temps. Mais je savais choisir. Après, évidemment que j'ai pu profiter de quelques belles soirées et quelques folies très, très sympas que sont les États-Unis. Mais avec tous les gars de l'équipe, où, voilà, j'ai des souvenirs de dingue. Mais,
tu jouais combien dans l'équipe?
J'ai commencé ma première année, j'étais en numéro 5.
Ouais.
Les premières rencontres.
6.
Je suis très. Non. Non, c'est le sixième au premier. Tu parles dans le line-up?
Ouais.
J'ai commencé en numéro 5,
ouais,
de mon équipe.
5 sur 6. Il y a 6 mecs sélectionnés.
Oui, 5 sur 6, pardon.
Ouais.
J'ai compris, puis 6, pardon. Excuse-moi.
Non.
Oui. Non.
Puis 11.
J'aurais pu descendre, mais non, je suis quand même plutôt monté.
Ouais.
J'ai commencé en 5e, j'ai fait quelques rencontres en 5e, je suis assez vite monté 4e, j'ai fini ma première année même en numéro 3.
Ouais.
Et l'année d'après, j'ai débuté en numéro 1 parce que j'avais bien joué, progressé, et j'ai fait mes 3 années en numéro 1.
Et pour que les gens comprennent bien, ça joue combien on va dire à l'ATP ou au classement français?
Bah, moi, à mon époque, après, j'ai été quatrième du pays, au mieux.
Ouais.
J'ai été mes 3 dernières années, quasiment, j'étais dans les 10 premiers du pays, quasiment tout le temps. Et bah, à cette époque-là, les mieux classés, c'était avec moi, c'était McDonald's, c'était Nori, c'était Eubanks, il y avait Shelton qui arrivait.
Ouais.
La dernière année, lui jouait en numéro 4 ou numéro 5 de Florida, de son équipe. Moi, j'étais en numéro 1, mais voilà, des gros joueurs. Il y en a plus. Kopfer, Hoffman. Non, Hoffman avait fini quand je suis arrivé. Il était un peu plus vieux, mais voilà, beaucoup de joueurs. Ça jouait 250, 200.
ADP, ouais.
Ouais, 300 max ouais. Sur les meilleurs, ouais. Ouais, c'était des beaux matchs.
Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'à l'époque, c'était considéré comme une voie de garage par les gars déjà sur le circuit. Aujourd'hui, ça paraît avec Ben Shelton et des superstars qui sont en train de claquer, toi qui as ouvert la voie, ça paraît être un passage hyper avec beaucoup plus de valeur, avec beaucoup plus de sens.
Je dirais que c'est. En fait, je pense que déjà chaque joueur a son chemin pour y arriver, s'il y arrive en
ouais.
Tennis, parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'y arriver, mais je pense que chacun a son chemin et en fait, les États-Unis est vraiment un vrai chemin possible qui peut te le permettre. Et je suis content d'être le premier exemple français à l'avoir prouvé ou démontré. Mais je pense que ce n'est pas juste qu'une solution de repli ou une solution de secours ou une solution, on va dire, de faiblesse ou d'abandon pour un joueur, mais plutôt une vraie solution à bis, quoi.
Ouais.
À celle de se lancer directement sur le circuit. Moi, je le dis souvent, je pense que, hormis si tu es top 10 mondial junior, je pense que la meilleure solution est d'aller aux États-Unis parce que tu as tout pour progresser. Surtout, tu te mets, on va dire, un peu en retrait de ce circuit où tu ne te crames pas mentalement dès le plus jeune âge.
Ouais.
Et ça, c'est un énorme gain quoi, sur le long terme, moyen-long terme. Et y a trop de gars qui attaquent à 17 ans, qui passent par les qualifs de futur, qui finalement s'en sortent, qui arrivent sur les tableaux futurs, qui finalement commencent à gagner, à avoir quelques résultats sur les futurs, mais qui s'accrochent à passer en challenger. Et en fait, ça leur prend déjà 5 ans ou 6 ans. Et en fait, ils arrivent au challenger, ils sont avancés. Moi, j'ai eu la chance, en à peine un an, j'étais confortablement installé dans les challengers. Donc, j'ai gagné et du temps et financièrement, j'ai gagné de l'argent aussi, évidemment, parce que j'ai pas perdu de temps sur les futurs.
Ouais.
Et professionnellement ou dans ma dynamique, ça m'a permis d'être sur cette pente ascendante et d'avoir cette dynamique positive donc pour continuer à avancer. Et je pense qu'il y a trop de gens qui veulent tout de suite se lancer quand en fait il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à se donner les chances. Et voilà, j'ai eu, sans vraiment le savoir ou par prise de bonnes décisions, j'ai eu cette chance de m'orienter comme ça. Et en fait, ça devient, voilà, c'est mon chemin et j'en suis fier. Et j'encourage beaucoup de jeunes depuis quelques temps, j'encourage beaucoup de jeunes à partir parce que je pense que tant bien même il ne se passe pas grand chose dans le tennis, tu as tout à gagner là-bas, tu ressors avec une langue, avec une nouvelle culture, avec un diplôme,
ouais,
avec une possibilité d'aller travailler là-bas, vivre là-bas, revenir, ouais. Repartir sur une autre école pour continuer en France. Enfin, donc voilà, les portes restent ouvertes. Alors qu'en France, souvent, ça se ferme pas mal, quoi. Soit tu passes direct sur une école, tu laisses tomber le tennis. Mais pourquoi laisser tomber le tennis quand tu as une passion de dingue pour un sport? Soit tu te lances sur le circuit, mais tu n'assures pas tes arrières avec un diplôme. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup cette option et je la conseille. Maintenant, je sais aussi entendre. Je trouve qu'il y a trop de gens qui négligent ou qui vont critiquer cette option, surtout en France, et souvent sans connaître.
Ça se développe quand même.
Souvent sans connaître, mais je suis content que par, pas mon image, mais
son expérience.
Voilà, mon expérience et mes résultats, ça fasse changer un petit peu les avis des gens en France.
Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP, est-ce que tu as ressenti, et la place de numéro 1 français, est-ce que tu as ressenti? Gros jump en avant, parce qu'on n'a pas le time.
Mon premier point ATP, c'était au Maroc, sur un petit futur au Maroc, où j'étais parti en vacances et mon père m'a dit, et en fait, on a vu qu'il y avait un futur dans le coin.
Quelle ville?
Taroudan.
Ok.
Taroudan, c'est à une heure d'Agadir, un truc comme ça, on était là-bas en vacances, et en fait, je m'y inscris. Évidemment qu'il n'y avait pas un chat dans le tournoi, donc je pense que je rentrais à peine dans les qualifs. Je ne sais pas, je devais avoir 17 ans, j'étais encore c'était pendant les vacances scolaires, en première ou en terminale. Et en fait, si je m'y inscris, mon père m'emmène. Et je pense que j'ai dû jouer un gars qui jouait à rien du tout, qui devait jouer 0, 1-6 à tout casser au premier tour. Et j'ai gagné mon premier point ATP là-bas.
Allez!
Donc énorme. Et j'ai gagné mon premier futur au Maroc aussi.
Vraiment ça?
En rentrant des États-Unis à 22-23 ans, premier futur à Meknès. Donc il y a une histoire avec le Maroc. Où là pour le coup, j'étais pas en vacances. Je m'étais lancé sur le circuit. Et c'était mes premiers futurs. Peut-être mon troisième futur et je l'ai gagné. Donc ça c'était cool. Et après,
pour le freinage du tram derrière, les oreilles c'est cadeau, les gars.
C'est pas toujours. Et derrière, ma place de numéro 1 français, fin d'année 2022.
Ouais.
Fin d'année 2022, je termine l'année 42e et numéro 1 français. Avec une belle fin de saison.
Tu t'enchaînes, tu gagnes des matchs en sauvant des balles de match.
Ouais, j'ai battu 3 ou 4 joueurs du top 20 en sauvant balles de match à chaque fois, entre une et 9 balles de match contre Karen Augusta. Ouais, quelquefois c'est comme ça, t'as l'impression que
quelquefois... Il y avait eu un événement, t'avais perdu quelqu'un de ta famille aussi, non?
J'ai perdu ma grand-mère.
Ouais, je me bats vachement, je sens que je.
Ouais,
ça donne un truc supplémentaire.
Ouais, ouais, l'histoire est pas facile. Je la perds en allant sur le tournoi de Gironde. Ça faisait un moment qu'elle était mal en point, mais je pensais pas que voilà, et puis c'est assez soudain. Et en fait, c'est ma grand-mère paternelle, et avec mon père, on décide que j'aille sur le tournoi quand même. L'enterrement allait être au milieu de semaine. Si je perdais tôt, j'allais pouvoir y être. Si je perdais pas, j'y serais pas. On décide quand même d'y aller, malgré le fait que voilà, c'était quand même une personne très 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 importante pour moi. Voilà, je suis resté des journées, des semaines en vacances, plus d'une fois avec elle. Donc très très importante pour moi et donc j'avais décidé de me donner à fond cette semaine-là pour elle. Et ouais, ce match en quart de finale contre Karen Augusta, qui est natif de là-bas, qui avait le public. Je pense qu'à part Sébastien, il n'y avait pas une seule personne qui était pour moi dans ce stade.
Incroyable.
Et j'ai sauvé 9 balles de match pour gagner, je ne sais même plus combien, 17-15 au tie-break du troisième. Et j'avais l'impression que j'ai jamais été inquiet dans ce match en fait. 9 balles de match, je n'ai jamais imaginé une seconde que j'allais perdre. Et comme quoi, ça prouve les capacités du mental, parce que je savais que j'avais gagné pour elle. Et ça faisait 3 matchs de suite, et ce match-là était quand même assez intense. Et bon, le lendemain, j'ai perdu contre Korda sur un match à accrocher, mais il joue aussi très très bien. Mais j'aurais aimé gagner le titre cette semaine-là pour elle, mais déjà, c'était un match, on va dire, assez héroïque. Voilà, j'espère que ça lui aura fait plaisir.
Tu m'étonnes. On va aller à l'hôtel parce que je crois que tu as la navette dans pas longtemps. Et puis on termine en marchant.
Allez, on fait ça.
Allez, feu. Dans la famille, il y a Chloé Paquet aussi, c'est ta cousine, non?
Ouais, alors cousine éloignée.
Ouais.
C'est son papa qui est cousin avec ma mère. C'est une cousine éloignée. C'est pas la vraie cousine, mais cousine éloignée, mais ça fait partie de la famille. Ma mère s'appelle Paquet aussi. Donc,
D'accord. Premier tour là, à l'Australienne, tu prends qui?
Je joue contre Pavel Kotov, un russe.
Que tu as déjà joué ou pas?
Jamais joué, mais jamais joué, que je connais un petit peu, j'ai vu, mais ouais. Jamais joué.
C'est quoi, lundi ou mardi?
Demain.
Ah, c'est demain?
Demain dimanche.
D'accord.
Ouais.
Et comment t'appréhendes ce premier tour?
Comment j'appréhende ? Écoute, c'est un bon joueur qui est très en confiance depuis quelques mois, qui a gagné pas mal de matchs, battu pas mal de bons joueurs. Donc, il a un look un peu atypique, mais il est un peu costaud, mais il se déplace très bien. Donc, okay. Pas forcément facile à manier, mais je l'aborde voilà, comme un match qui est dans mes capacités. Ça va dépendre de moi, si je suis capable de bien jouer. J'ai eu un petit pépin au dos quand je suis arrivé en Australie, donc ça m'a empêché de faire le premier tournoi à 100%, mais la semaine dernière c'était mieux.
Ouais.
Et là je me sens plutôt bien, donc j'espère pouvoir faire un bon match et aller le chercher.
Yes. Un mot sur la team Extia que tu as rejoint, qui me permet du coup de faire cette interview avec toi, et qui est composée de 5 joueurs, Terence Atman, Constant Lestienne, toi, Hugo Nice et Nico Mahu. Est-ce que tu peux me dire déjà un petit mot sur la personnalité de ces 5 gars ? Si tu voulais citer un trait de caractère sur chacun, incluant Arnaud Frey, son fondateur, le boss.
Le boss, je dirais… j'en ai beaucoup, hein. Il faut en choisir un, c'est pas facile.
Je
dirais bienveillant.
Ouais.
Mais j'avais dynamique, j'avais entreprenant, j'avais…
Passionné.
Passionné, j'avais pas mal d'adjectifs. Après mes deux, on va commencer par les anciens de la team, parce qu'on est les anciens maintenant avec Constant et Hugo.
Ouais.
C'est notre deuxième année. Constant et Hugo, voilà, je les adore, c'est des très bons copains. Hugo est au top, ça fait longtemps, on a joué en double ensemble souvent.
Ouais.
Super gars, Constant pareil, je suis hyper impressionné par son parcours, pareil, qui est un peu pas comme le mien du tout, mais qui est différent. Ça lui a pris du temps, mais il y arrive et je suis vraiment très fier de lui pour ça, parce que c'est pas facile. Il s'est accroché, il le mérite. Et puis les petits nouveaux.
Nico Mahu aussi.
Le petit jeune Nico Mahu de cette année.
Ah oui.
Le petit jeune Nico Mahu, parce que Nico Mahu, c'est sa première année. Terence aussi, les deux petits jeunes de l'équipe, évidemment.
Ouais.
Et Nico, j'ai appris à très très bien connaître maintenant. On a partagé quelques Coupe Davis, quelques séjours Coupe Davis ensemble. Et j'aime beaucoup le gars qui est plein de très bons conseils et de très bonnes expériences. Et Terence, la fougue, la folie, le petit nouveau, le petit jeune.
Tu le connais un peu, Terence ?
Je connais moins bien que les trois autres, mais je commence à j'apprends à connaître avec son entraîneur. Je trouve qu'il bosse très bien.
Romain Boulet.
Ils sont vraiment au top. Donc je leur souhaite plein de belles choses. Et déjà, ils sont qualifiés et c'est bravo.
Très beau, ouais. Très beau. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir rejoint ce team ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Au-delà du financier, évidemment, c'est un sponsor. C'est quoi ta vision de l'intérieur ?
Ouais, c'est un partenaire de tous les jours. Arnaud est, comme je l'ai dit, une personne de confiance, un proche qui est très bienveillant envers moi, envers le reste des joueurs. Et
ouais.
Ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter, qui est de très bons conseils. Et puis, on a développé cette relation où maintenant on est très proche et je m'identifie pas mal à ses valeurs. Il avait commencé avec Constant, puis avec Hugo, ces deux gars qui je suis très proche. Et quand il m'a contacté pour que je sois le troisième de cette équipe, moi ça m'a beaucoup plu. Surtout quand je vois les deux premiers profils, je me dis que c'est pas comme si c'était des profils totalement à l'opposé de mes valeurs à moi. Donc je suis vraiment très content de partager cette expérience, d'avoir cette petite équipe qui est quelque chose sur laquelle moi je suis très, très attaché avec les États-Unis. J'ai l'impression peut-être presque de m'y retrouver, tu vois, d'avoir des partenaires dans le circuit.
Ouais.
C'est quelque chose qui est très cool et je suis ravi d'en avoir deux de plus cette année. Donc j'ai envie de voir ce que le futur nous réserve.
Tu dirais que ta saison, elle te coûte combien en moyenne ?
Alors c'est difficile, tout compris.
Ouais.
Je dirais qu'on est, sur les 150 000 euros, je dirais quelque chose comme ça peut-être.
Et en étant à ton classement, c'est un coût qui est facilement amorti, entre guillemets, ou ça reste un challenge ? C'est quoi
la
réalité du terrain ?
La réalité du terrain, non, c'est toujours un challenge, évidemment. C'est-à-dire comme nous tous, à un moment donné, tu essayes aussi de dégager des bénéfices. Même si moi, j'ai considéré que c'était important d'investir dans sa carrière pour réussir, et je continue à le faire. mais en même temps, à un moment donné, quand tu peux te le permettre, tu as envie aussi de pouvoir mettre un peu de côté. C'est pas tous les jours facile de le faire dans le tennis.
Ouais.
Donc maintenant que voilà, ça fait 2-3 ans que j'arrive à gagner ma vie. Donc ça, c'est super. Maintenant, tu sais que tu as toujours une enveloppe plus ou moins de ce montant-là tous les ans à sortir pour financer ta saison. Donc voilà, déjà avoir des partenaires qui t'aident à le financer, ça te permet de prendre une bouffée d'air pour te lancer sur l'année. Et puis en même temps, tes revenus en dépendent un petit peu moins au début. Donc, ça fait du bien, ça aide beaucoup. Mais voilà, après ça fluctue aussi. Les résultats, ils viennent s'ils viennent. On n'est pas salarié dans le tennis. Donc, toujours un peu prévoir, mais tout en continuant à investir pour essayer de progresser, se rendre meilleur. Et c'est cet ensemble d'espèces de gestion, de management de son équipe, que ce soit sur le côté professionnel, humain et sur le côté financier, pour optimiser tout ça et essayer d'être le meilleur joueur de tennis sur le court.
Et alors, bientôt marié, c'est ça ?
Bientôt marié. On n'a pas encore.
T'as fait la demande ?
J'ai fait la demande. J'ai fait la demande. Fiancé, mais on n'est pas encore organisé sur la date ou sur l'endroit, mais ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être pas en 2024.
Félicitations, mec, c'est cool.
C'est gentil. Merci.
C'est bon, ça.
C'est l'éclate depuis 11 ans maintenant.
11 ans ? Ah ouais ? Avant les US, du coup ?
Quelques mois avant les États-Unis, on a commencé.
Ah, c'est fou, ça.
On a tout traversé.
C'est beau. Chapeau.
Ouais, merci.
Bon tournoi. Merci d'avoir pris le temps. Bon match demain.
Merci
et puis surtout, bonne saison. Et bonne année.
Merci à toi, Max.
Et bon mariage.
Merveux.
Ciao, man.
Ciao, ciao.
Ne partez pas tout de suite. Je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001. C'est cadeau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.